La 6e édition du Festival Plein Champ, une émission en direct présentée par Robin Hulin. Sur Radio Alpa.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes en direct du parc du Gué de Maulny pour une émission spéciale consacrée à la 6e édition du festival Plein Champ. C'est un programme en partenariat avec Plein Champ et la ville du Mans, et nous sommes ensemble pendant une heure. Alors qu'est-ce que Plein Champ ? C'est un événement incontournable dédié aux arts urbains, pour placer le street art au cœur de notre ville mancelle. Mais pas seulement, puisque la musique est aussi au rendez-vous, découvrir et pratiquer avec les artistes. Alors au programme de cette heure passée ensemble, nous serons avec l'artiste Grems, invité d'honneur de cette nouvelle édition. Créateur partagé entre street art et musique, il a également peint et investi le Grand Cube, et il proposait hier soir une soirée électro. Et puis à ses côtés dans cette émission, retrouvez Matt et Zeki, un duo d'artistes qui investit les lieux, différents lieux, deux artistes féminines à l'identité forte, aux couleurs assez reconnaissables. Nous serons également avec deux artistes mancelles, les Morito Fraises, en provenance de la scène mancelle, assez identifiée du public, qui ont d'ailleurs plusieurs créations différentes aux quatre coins de la France désormais. Elles viennent en parler tout à l'heure. Et enfin, nous parlerons d'un projet, d'une création et expérience immersive dont on a déjà parlé sur notre antenne cette année. Il s'agit de Seascape, déjà présenté pendant Le Mans Sonore, une création pour nous sensibiliser à la pollution sonore des fonds marins. Voilà pour les principaux sujets de cette heure qu'on va passer ensemble. Pour démarrer cette émission, je suis avec Mickaël Guihard, maire adjoint au Mans à l'éducation artistique et culturelle. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec nous, Étienne Kervella, directeur artistique de Plein Champ. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, avant d'accueillir nos différents invités, on va présenter d'un peu plus près cet événement. Comme on l'a dit, Plein Champ au Mans, c'est la 6e édition depuis le 5 juillet jusqu'à ce soir. Un événement consacré au street art, à la culture urbaine dans son ensemble, pour favoriser la pratique, notamment auprès du public, du jeune public. Peut-être d'abord, Mickaël Guihard, à l'origine, quelle était l'intention de la ville lorsqu'elle a créé cet événement il y a 5 ans déjà maintenant ?
Alors l'intention première vient du maire, Stéphane Le Foll, qui a souhaité faire un festival dédié au street art en partant du constat qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient très présents sur ce secteur-là, qu'on avait déjà un festival dans lequel a officié d'ailleurs Étienne Kervella qui s'appelait Connexion, plus ancré sur la culture urbaine mais plus sur le volet musical. Et partant de cet ensemble-là, il a eu cette idée d'un festival dédié au street art et en particulier de le faire dans ce parc, au Gué de Maulny. Voilà, donc avec ces murs qui se sont montés au fur et à mesure.
Étienne Kervella, finalement, créer cet événement consacré à l'art urbain dans toute sa globalité, ça permet, comme le disait Mickaël Guihard, de proposer une offre culturelle, artistique différente et nouvelle surtout en Sarthe et au Mans.
Exactement, il n'y avait pas de festival de street art au Mans avant l'existence de Plein Champ. Il y avait différents projets qui ont eu lieu. C'est pas l'invention du street art, c'est pas lié à Plein Champ. C'est simplement que Plein Champ a permis d'offrir une caisse de résonance et un rayonnement dans le domaine des arts visuels de façon très très conséquente pour les artistes locaux jusqu'aux artistes internationaux.
On a une balance qui se prépare juste à côté de nous. On va envoyer une pause musicale et on va se retrouver dans quelques secondes. On est de retour en plateau, en direct de Plein Champ. On a eu une balance qui s'est préparée. Voilà, c'est les enjeux du direct. Je suis toujours avec Étienne Kervella, directeur artistique, et Mickaël Guihard, maire adjoint au maire du Mans. On parlait un petit peu de cet événement qu'on présentait. Donc, quelle est l'intention d'avoir créé Plein Champ il y a 5 ans ? Peut-être Étienne Kervella, maintenant, se tourner un petit peu vers le programme pour présenter un peu ce qu'est Plein Champ 2024. Vers quel nouveau secteur, nouvelle thématique vous avez essayé de partir cette année ? Il y a beaucoup de choses.
Eh bien, le programme du Festival Plein-Champ, il se découpe un peu comme depuis le début, comme depuis la première édition en 2019, à travers trois axes. On a les street artistes qui peignent en direct pendant trois jours face au public et qui aujourd'hui sont au nombre de 42 sur le festival. Ça, c'est vraiment la partie art visuel, performance solo des artistes. On a une programmation musicale qui, elle, va vraiment dans à peu près tous les styles musicaux qu'on retrouve dans les musiques actuelles aujourd'hui. Et puis le troisième axe, qui est un axe très très important, dont Mickaël pourra appuyer et présenter plus en détail que moi, c'est la partie éducation artistique et culturelle. C'est ce qu'on appelle les ateliers. On a une vingtaine d'ateliers avec différentes techniques autour du street art, de façon à ce que tout le monde, les enfants en priorité, parce que les enfants viennent assez naturellement aux ateliers, mais aussi les grands puissent pratiquer, découvrir, s'essayer aux différentes techniques du street art.
Parce que l'objectif dans ce programme, c'est de brasser des artistes confirmés qui ont une renommée nationale, peut-être même internationale, avec des artistes locaux aussi, et valoriser les collectifs et compagnies sartoises.
Exactement. Depuis l'existence de Plein-Champ, il y a eu 42 artistes locaux accompagnés par Plein-Champ. On peut parler par exemple des Morito Fraises.
On aura tout à l'heure, oui.
Qui viendront, voilà, c'est un bel exemple d'artistes, elles sont locales, mais depuis le départ, Plein-Champ les accompagne et aujourd'hui, elles peignent des fresques bien au-delà de la Sarthe, puisqu'elles sont allées à Saint-Raphaël, à Gaillac, au bord de la mer récemment, en Vendée, il me semble. Enfin, voilà, donc on voit bien que Plein-Champ fait des petits et ces petits, après, s'envolent et on est vraiment...
C'est un des enjeux de Plein-Champ, justement, mais une des missions de la ville, que Plein-Champ soit un tremplin pour les artistes, notamment, et comme l'a dit Étienne, qu'il se développe ensuite au département dans la région et beaucoup plus.
Oui, bien sûr, c'est de leur offrir une vitrine, de leur permettre de rencontrer aussi d'autres artistes plus connus, avec une plus grande renommée, comme le disait Étienne, au niveau national ou international. C'est une particularité et l'unicité finalement du festival Plein-Champ, c'est d'avoir tous ces street artistes qui sont sur un même lieu, qui peignent en même temps. La plupart des grands festivals de street art, on peut penser à Boulogne, à Grenoble par exemple, que je cite souvent en exemple, mais qui sont des très grands festivals, mais où chaque street artiste est sur son mur. Ils sont tous disséminés dans la ville. Et là, ça donne une émulation, ça donne des rencontres entre les artistes. Ils se retrouvent au catering. Ouais. Quand ils font des petites pauses, ils vont voir ce que font les uns et les autres autour d'eux, etc. Et ça permet d'échanger sur les pratiques. Et puis, par rapport à l'accompagnement et l'émergence des artistes locaux, c'est aussi un moyen de faire des rencontres avec d'autres artistes, de monter des projets en commun, d'aller voir ailleurs, d'être invité parfois aussi par des artistes qu'ils ont pu rencontrer ici et qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, l'autre aspect que vous évoquiez sur l'émergence de ces jeunes artistes, c'est aussi à travers leur réalisation sur les murs, mais aussi les ateliers, parce qu'ils sont beaucoup mobilisés sur les ateliers, d'être aussi mieux connus du public local. Parce que c'est une dimension importante aussi de Plein-Champ, c'est aussi de faire connaître nos propres artistes du territoire auprès de la population.
Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des artistes comme Grems qui seront avec nous dans quelques instants, qui sont des artistes un peu multidisciplinaires. Hein. Il y a beaucoup de choses, du street art, de la musique, différents aspects musicaux. Comment est-ce que Plein-Champ définirait finalement la culture urbaine et l'art urbain ? Parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, c'est un art qui explose depuis une quinzaine d'années, qui, entre guillemets, donne la parole à des artistes dans lesquels on s'intéressait peut-être moins il y a encore 20 ans, mais comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'art urbain qui semble en perpétuelle évolution, en plus ?
En fait, c'est la fin de ta phrase, Robin, c'est exactement ça. C'est l'art urbain est en perpétuelle évolution. Au début des années 80, on observe des gens comme Fabio Reiti, pionnier du muralisme en France, qui était italien d'origine, et qui est venu en France au Mans en 1982 réaliser le premier trompe-l'œil au Mans. Et donc on voit bien qu'en fait finalement ça fait 50 ans qu'il y a du street art, et puis après on peut remonter bien au-delà, mais le muralisme en tout cas il a commencé à se développer au début des années 80. Donc après on a vraiment l'explosion de la culture hip-hop qui arrive en France, qui arrive de New York, du Bronx principalement, et à travers le graffiti, là on est vraiment sur la technique de la bombe, ça va se déployer à Paris, Marseille, et puis après dans toutes les villes. Et au fur et à mesure des décennies, la pluridisciplinarité, on va dire, de l'art visuel s'est développée, le collage, le pochoir, les affiches, et le terme street art, finalement, il a effectivement explosé depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, aujourd'hui, il y a 500 festivals de street art en France. Donc, quand on parle de street art, c'est finalement être acteur artistique dans l'espace public, que ce soit légal ou que ce soit non légal.
C'est une forme artistique plus engagée que d'autres, selon vous, sur certains aspects, hein, sur certains sujets, hein, quand on parle de l'art urbain.
Fatalement, parce que à partir du moment où c'est public, la volonté de beaucoup de ces street artistes, c'est de délivrer un message. Oui. Et on le revoit, si on prend les différentes éditions de Plein Champ, très nombreux, voire la quasi-totalité des artistes sont ceux qui veulent délivrer un message, qui veulent faire passer un message. On n'est pas sur quelque chose, je dirais, qui serait juste de faire de l'esthétique pour faire du beau, entre guillemets, même si là, en termes d'art et d'histoire de l'art, il y aurait beaucoup de choses à définir sur ce qu'est le beau, mais au-delà de ça, on n'est pas sur un aspect vraiment voilà, esthétique, pour plaire, pour mélanger des couleurs, etc. Il y a très souvent un message derrière. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un peintre qui va peindre ses toiles, et s'il se restreint à ça, mais ça fait partie des évolutions aussi dont parle Étienne, mais ça, un peintre qui est dans son atelier, qui fait ses toiles et qui sait qu'il a affaire à un public de connaisseurs par son galériste ou quoi que ce soit, on va avoir quelque chose de totalement différent. Il peut peindre des choses voilà, qui n'ont pas forcément d'engagement de manière générale. Voilà, même si ce que je dis a ses propres limites, hein, puisque dans le cadre de l'évolution notamment, on a aussi à la fois des street artists qui passent sur la toile en petit format et le chemin inverse avec des gens qui sont avant tout peintres en petit format sur toile et puis qui maintenant se mettent à faire des murs.
Est-ce que Plein Champ pourrait être amené à se développer et devenir une production accompagnée d'autres artistes? Il y a le projet Seascape justement qu'on a découvert dans Le Mans Sonore. Est-ce que Plein Champ pourrait aller au-delà de cet événement estival et s'inscrire dans la culture urbaine artistique de notre région?
Alors pour le détail, je laisserai Étienne répondre, mais sur la volonté de la ville, on est véritablement dans cette envie d'encourager, de développer les transversalités. Oui. On le retrouve à travers tout ce que l'on peut soutenir comme projet sur le plan culturel et tout ce qui est projet hybride et ce qui est projet transversal entre différentes esthétiques, différents types d'art, c'est véritablement quelque chose qu'il nous semble intéressant d'encourager parce qu'on est persuadé que c'est là aussi où se trouve l'avenir de l'art de manière générale. Et là-dessus, je pense que Plein Champ peut y avoir toute sa place.
C'est l'occasion effectivement de rappeler que Plein Champ, il y a deux projets principaux. Hein. Il y a le festival Plein Champ qu'on vit ce week-end au Guédemolny, oui, pendant 3 jours. Mais toute l'équipe de Plein Champ travaille à l'année sur ce projet à travers le parcours Plein Champ. Et dans le parcours Plein Champ, l'objet principal, c'est le street art, bien évidemment, à travers différents projets. Les très grandes fresques que vous pouvez voir dans la ville, sur des pignons, des façades d'immeubles, on appelle ça, nous, les transformations murales. Ça, c'est un travail très long en termes de préparation pour que les artistes puissent peindre sur l'espace public. On a également des expositions, des ateliers en milieu scolaire grâce au CLEAC, et puis un mur au musée de TC qui est renouvelé tous les 2 mois. Et le projet du mur du musée de TC, c'est de programmer des artistes tous les 2 mois. Les artistes choisissent librement une œuvre dans le musée et la réinterprètent sous forme de fresque avec leur propre univers.
Parce que oui, on est rattrapé par le temps. Mais il y a une question que je voulais vraiment vous poser justement là-dessus. Sur la gestion de l'espace, sur la gestion du temps, comment est-ce qu'on gère le renouvellement de ces fresques? Quelle est la durée de vie d'une fresque, par exemple? On a celle qui est emblématique de Sète en centre-ville du Mans aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe dans la durée, ces fresques et ces œuvres en pleine ville?
Le festival Plein Champ, ici au Guédemolny, les œuvres vivent 1 an. Ouais. Au bout 1 an, on repeint les murs pour accueillir les nouveaux artistes, puisque 100% de la programmation du festival est renouvelée. Dans la ville, sur les immeubles, effectivement, on contractualise pour 5 ans avec les propriétaires des murs. Donc la ville, Plein Champ, est responsable de l'entretien de l'œuvre pendant 5 ans s'il y a une dégradation de l'œuvre.
Après, suivant les techniques qui sont employées, le type de peinture, les vernis éventuels, etc., ça peut durer plus ou moins longtemps. Et puis, il y a une petite particularité aussi, c'est le cube, puisque c'est la seule partie, finalement, du Festival Plein Champ qui reste un peu plus dans la longue durée. On n'a pas encore suffisamment de recul pour savoir combien de temps vont durer les premiers cubes, puisqu'on est au quatrième en réalisation, là, donc ça fait 3 ans pour le premier. Mais ça reste. Voilà, contrairement aux murs qui sont repeints tous les ans, les cubes sont déplacés et restent pour l'instant visibles.
Mais en tout cas, les fresques, les premières transformations murales, elles ont 6 ans. Et aujourd'hui, elles se portent plutôt très bien en termes de couleurs.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Merci Robin.
Mickaël Guerre, vous êtes maire adjoint au Mans à l'éducation artistique et culturelle. Étienne Kervella, directeur artistique de l'événement Plein Champ. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. On sera avec les artistes Grems et Matezeki. Avant ça, une pause musicale. A tout de suite.
Cabelo que já bonzo, cheio e manamado, calunga já broxou.
De retour dans cette nouvelle partie d'émission, nous sommes toujours en direct de Plein Champ depuis le parc du Gué de Maulny pour un programme spécial présenté dans le cadre de la 6e édition de ce festival d'art urbain. Dans cette deuxième partie, j'ai la chance d'être avec l'artiste Grems, invité d'honneur de Plein Champ cette année. Bonjour.
Tu n'as pas de chance.
Vous avez l'air très en forme aujourd'hui, Grems. Je me trompe ?
Non, ça va. Tranquille.
Merci d'être avec nous. On est aussi avec le duo d'artistes, Matezeki. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec vous, Grems, street artiste également.
Pourquoi
rappeur,
moi
vous
êtes... Tu peux commencer par
oui, bah, on commence par l'invité d'honneur et ensuite on va croiser. Et puis voilà.
Ouais,
vous êtes street artiste, vous êtes également rappeur. Vous avez fait de l'électro hier soir, c'était super. Merci d'ailleurs pour ce moment.
Merci infiniment.
Vous avez réalisé une fresque en centre-ville. Elle est magnifique, ornée de lignes, colorées, merci, diverses. Vous avez réalisé Hyperspace, si je prononce bien, dans un des tunnels des 24 heures du Mans.
Tout à fait.
Hein, des lignes diverses et colorées qui se suivent. Alors on est en radio, donc on va essayer de parler de street art en radio, c'est un challenge. Est-ce qu'on peut essayer de décrire un petit peu cette création que vous avez réalisée? Vous avez aussi réalisé une création sur le cube.
Oui.
De plein champ.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus?
Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise de spécial?
Parlez un petit peu de vos créations que vous avez présentées dans le cadre de cette sixième édition en tant qu'invité d'honneur.
Alors, j'ai fait plein de créations, j'ai fait plein de choses. Je suis très gratifié de cette invitation et du statut qu'on m'a donné et toutes les possibilités miraculeuses et différentes et variées de supports, de murs et de missions en tout genre, de rap à DJ, à peinture, à tout ça. Donc c'était assez sportif et super sympa. Et donc je suis super content que plein champ m'ait pris parce que c'est un festival clairement de muraliste. Donc ce n'est pas ce que je fais. Je ne fais pas du muraliste.
Qu'est-ce que vous faites habituellement?
Moi maintenant je suis plasticien et je viens du graffiti, donc du post-graffiti à la base. Et avant, mon activité, c'était graphiste-illustrateur pendant des années avant que je fasse de l'abstrait. Et donc, je suis très content que plein champ prenne le risque de montrer aussi une autre facette de l'art urbain. Ce serait bien qu'on n'utilise plus le mot street art. Mm. Ce serait vraiment super bien, même dans l'interview. Mm. Parce que si...
Qu'est-ce que ça change, selon vous? Qu'est-ce que...
En fait, ça change un gros problème aujourd'hui, c'est-à-dire que... vous voyez, quand on voit une affiche dans la rue, fait par un affichiste, ça s'appelle de l'affiche et c'est un affichiste. Quand vous voyez un pochoir fait par Mystique, ça s'appelle un pochoir, donc c'est une pochoiriste. Quand vous voyez Banksy, ça s'appelle du pochoir. Et quand vous voyez un tag, ça s'appelle du tag. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot street art, il est arrivé dans les années 2000. Et le mot street artiste, en fait, c'est exclusivement les gens qui viennent du graffiti et qui se font un peu chier avec les codes du graffiti parce qu'ils ont fait vite le tour et qui développent tout ça. Mais le problème du mot street art, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde l'a utilisé comme une corbeille, c'est-à-dire que c'est une poubelle, en fait. Et du coup, tout ce qui est dans la rue, pour les gens, c'est street art. Alors que c'est pas vrai, c'est plus, on va dire, de l'art urbain. Et c'est important, aujourd'hui, maintenant, avec ce niveau-là de différents artistes, de montrer les différentes catégories, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le muralisme, il y a le graffiti, il y a les post-graffiti, il y a le design, il y a le graphisme, il y a toutes ces différentes, on va dire, disciplines qui sont ensemble, mais qui sont bien segmentées, qui sont différentes et qui ne sont pas les mêmes propos, en fait. Et donc, c'est un honneur de pouvoir être là et de pouvoir aussi montrer ce travail-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cet art urbain se développe et donc touche différents publics? Parce qu'avant, est-ce que c'était peut-être tout simplement une forme artistique qui intéressait moins certaines formes de public en France, certains publics? Et qu'aujourd'hui, grâce à des événements comme Plein Champ, mais pas seulement, parce qu'il y en a vraiment partout aux quatre coins de la France, on en parle surtout de plus en plus et on s'intéresse aux différentes techniques, aux différentes approches?
Je pense que c'est plutôt populaire, la peinture. La peinture, ça n'agresse pas les gens, ça a toujours plus ou moins bien fonctionné. Quand vous faites une fresque et que c'est assez, on va dire, soigné et joli, en général, les gens qui passent devant, ils sont assez contents, il se passe des interactions, donc la peinture, ça n'a jamais été trop agressif, à part le graffiti ou le graffiti vandal. Donc je ne suis pas étonné que les gens aiment et que ce genre de format à 7 à 77 ans, comme ça, fonctionne aussi bien. C'est moi qui étais directeur de Colorama Festival. J'ai eu aussi le même genre de pratique et de volonté, c'est-à-dire de l'ouvrir au maximum de gens, d'être sur une parité complète et s'adresser à tout le monde. Et ça fonctionne bien. Et c'est cool parce que voilà, c'est juste des images et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a pour tout le monde, donc c'est bien. C'est bien que les gens puissent se réunir autour de tout ça et que ça prenne une dimension pareille.
Matézeki, je me tourne vers vous. Vous êtes un duo d'artistes. Vous avez investi les lieux de la Maison des Pêcheurs. Alors, comment décrire vos créations? Sur ce qu'on a pu découvrir auparavant, vous travaillez beaucoup sur le bleu, cette couleur qui laisse apparaître des visages aussi parfois. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent ce que vous avez tenté dans cette édition de Plein Champ 2024 de mettre en avant, notamment dans la Maison des Pêcheurs?
Alors déjà, la Maison des Pêcheurs, c'est un bâtiment concret qui est très intéressant à travailler. Nous, on aime bien, être sur la matière, sur la texture du mur. Donc, on a même respecté les éclats, etc., pour composer autour des feuillages, etc. Et puis, notre thématique de prédilection, en fait, c'est l'antique. Parce que pendant le confinement, en fait, on s'est retrouvés sans matériaux de travail. On ne pouvait plus acheter de toile, rien. Et on a la chance d'être en résidence artistique à la ville de Reims, où dans notre atelier, en fait, on a au sous-sol, il y a une recyclerie. Et donc, il y avait des ouvrages du Louvre, il y avait des bouts de moquettes industrielles, des échantillons, etc. Et en fait, on a puisé dans toute cette matière pour faire des créations. On a fait des collages, en fait, au début. Et on a même décidé d'écrire un livre à ce moment-là. Donc, on a écrit une petite odyssée mythologique. En fait, derrière tous nos travaux, qu'on peut qualifier d'art visuel, il y a toujours une petite profondeur narrative. On aime bien raconter des histoires. Donc, nous, pareil, je pense qu'on se considère plus comme des artistes plasticiennes à plusieurs médiums. Il se trouve qu'on fait des murs en ce moment, mais ce n'est pas ce qu'on faisait dès le départ de notre travail. On a commencé en atelier. On pourrait aussi s'intéresser à de la réalisation vidéo, à du son. En fait, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être sur ce type de festival qui permet de s'exprimer dans un lieu complètement ouvert. Donc, on passe du confinement à un lieu complètement ouvert sur Bordeaux, avec de l'herbe, avec... toute la végétation, plein de gens qui viennent nous voir. Donc c'est aussi des moments de rencontre hyper intéressants.
Lorsqu'on investit des lieux comme en ce moment, quelles sont les différentes étapes de réalisation? Du début à la fin, le processus, comment est-ce que ça se passe?
La pluie d'abord.
Oui.
Ouais, alors déjà on regarde la météo.
On a eu un gros travail préparatoire en amont. Comme on est à deux, il faut toujours aussi qu'on tombe d'accord aussi sur le projet, la réalisation qu'on a envie d'effectuer. Et une fois fait, et qu'on est 100% d'accord.
Ah, c'est de la démocratie, Mathézé.
Voilà.
Est-ce que vous engueulez souvent?
Oui. Souvent, ouais. Et c'est dans
le propre des duos. Enfin,
ça ouais, se ressent dans le résultat ou pas?
Pas forcément.
On se répartit le travail également sur une longue fresque murale. Comment est-ce qu'on peut jongler à deux?
Techniquement, Matt va être plus sur de l'aérosol, spray, dégradé, ombré. Mmh. Moi, je ne sais pas faire. Et elle, c'est quelque chose qu'elle maîtrise, donc je m'intéresse moins. Et moi, ça sera plus sur l'acrylique. On avait un très beau mur, très beau spot, avec un beau crépi. Donc, on s'est mis à deux pour peindre avec le petit pinceau, parce qu'on mettait un petit peu plus de temps. Mais en fait, les techniques, normalement, on a des techniques très réparties, mais quand on fait des murs... On travaille dehors, il y a les météos, parfois il neige, parfois oui. Il pleut, parfois il fait du soleil.
Parfois il neige aussi.
Oui, parfois il neige, oui, c'est vrai. La neige, c'est moins gênant même.
Oui.
Et du coup, on se répartit les techniques à ce moment-là. Donc, on ne peut pas vraiment savoir d'une journée à l'autre comment on va intervenir sur le mur, c'est chemin faisant.
Donc là, on vous découvre à plein champ en ce moment. Quels sont les projets pour la suite, pour les jours, les semaines qui arrivent cet été?
Quelques jours de vacances.
Ouais, là, immédiatement, on se met immédiatement en vacances parce que ça fait depuis 2016 qu'on n'en prend pas beaucoup. Et là, cette année, on a décidé que cet été, on allait se reposer. On a la très grande chance de faire partie d'une belle exposition collective au Musée des Beaux-Arts de Paris. Donc, on va laisser les tableaux s'exposer pour nous. Et puis, en octobre, on sera sur une fresque en Serbie, à Belgrade, 14 mètres de haut. Et il se trouve que j'ai beaucoup le vertige. Donc voilà, ça va être encore...
C'est un sacré challenge.
Ça sera un nouveau projet pour mon vertige, ouais.
Combien de temps on met à réaliser une fresque sur ces dimensions-là dont vous venez de parler?
Aucune idée.
Là, on a 10 jours. Hein, c'est ça, 10 jours?
Ah, pour la fresque qu'on fait actuellement?
Non, en Serbie.
Ah, en Serbie, on a 10 jours.
Voilà.
Mais après, les horaires, le volume horaire, il est totalement aléatoire, on ne sait pas encore.
Grems, l'actualité dans les jours, les semaines qui arrivent. Il y a une exposition au Centre commercial des Jacobins.
Tout à fait.
Également en ce moment.
Tout à fait.
Comment ça va se passer pour vous cet été? Après plein champ.
Moi je reste ici, en fait, je reste ici avec vous.
Hein. Oui, bah ça.
Continue, moi je reste ici un
an. Et on vous retrouve sur Radio Alpa.
On parle tous les jours à la radio, voilà. Ensemble, demain, après-demain. Et c'est bien. Hein.
Bah, c'est un grand plaisir.
Non, je vais aller dormir.
Oui, on peut vous comprendre.
Et après, je sais pas, ce sera la surprise. Voilà.
Bon, en tout cas, on est très en retard sur le temps de cette émission. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation.
Merci
beaucoup.
Bonne
C'était
journée.
Les artistes Grems et Matézeki. Nous, on va se retrouver dans quelques instants. On sera avec le duo d'artistes des Mojito Fraises. Avant ça, une pause musicale. On écoute La mort avec toi de Gargantua. A tout de suite.
Et aux amis. grand public qualifierait d'infâme. Décidé à en découdre, tu mettrais le feu aux poudres en mettant les coups de foudre en tête du programme. L'amour en aveugle ceux dont on crèvera les yeux. Nos soirées en amoureux seront sans état d'âme. Pas de discrimination, cassons tout sans exception. Que l'enfer et la prison nous ouvrent leur sésame.
De retour dans cette nouvelle partie d'émission, toujours en direct de la 6e édition du Festival Plein Champ depuis le parc du Gué de Molny. Et dans cette nouvelle partie, j'accueille deux nouvelles artistes, les duos Morito Fraise. Bonjour, le duo Morito Fraise, pardon, bonjour.
Bonjour.
Donc avec moi, Mathilda et Laura, vous êtes street artiste, graphiste, illustratrice. Vous expliquez que vos œuvres se caractérisent par des portraits des nouveaux habitants des lieux où ils sont réalisés. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ces portraits sont embellis de motifs naturels, de fleurs, qui symbolisent un peu la symbiose donc, entre la nature et l'homme, en intégrant la nature dans l'espace urbain. Est-ce qu'on peut peut-être présenter aux gens qui nous écoutent ce que vous travaillez en ce week-end de plein champ, ce qu'on va pouvoir découvrir, est-ce qu'on peut déjà découvrir en ce moment d'ailleurs ?
Oui, tout à fait. Donc, on a commencé vendredi par faire une sous-couche rouge, qui nous permet d'avoir un après coloré derrière nos portraits. Donc en fait, les murs de plein champ, ils se caractérisent par trois espèces de panels rapprochés. Donc nous, on a créé un triptyque. Ce sont trois portraits de femmes qui symbolisent un petit peu les thèmes de l'inclusion, de la diversité. C'est un petit peu une réminiscence de la figure de Marianne. Donc voilà, nous, on souhaitait célébrer une Marianne aux mille visages. Voilà, on veut promouvoir une société inclusive, valoriser la diversité sous toutes ses formes. Et voilà, c'est un petit peu symbolique. À la place de son bonnet phrygien, on retrouve un petit peu notre patte artistique. Donc elle a des fleurs, une couronne de fleurs qui s'envole autour de sa tête.
En associant, comme on le disait, donc une part de nature, c'est pour créer un aspect poétique aussi pour les gens qui passent et qui découvrent vos œuvres ?
Bah, effectivement, on aime bien mettre de la nature dans les espaces urbains parce que souvent, on va intervenir dans des quartiers où bah, y a pas beaucoup de nature. Et ça nous fait plaisir de redonner sa place. Ah voilà.
Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça apporte en plus quand on essaye d'intégrer un peu de couleurs naturelles, de biodiversité, l'aspect floral, etc.
Je pense que ça permet aussi aux passants de pouvoir s'arrêter, d'avoir un moment contemplatif et que le bitume il disparaisse un instant.
Le bitume, justement, vous travaillez avec quel type de matière ? Si on peut expliquer un petit peu ça à l'antenne sur cette fresque que vous faites en ce moment, comment ça se passe ?
Alors, la matière, bah là, on est sur du béton.
La matière, je parle des couleurs.
Hein. Ah comment oui, ok. Ah bah nous, on est à l'acrylique, nous, donc c'est peinture, exclusivement peinture. Mm-hmm. On essaie de faire ça de façon assez intuitive, donc on va avoir des peaux, mais c'est plutôt des couleurs primaires, donc du rouge, du bleu. Bah, bien sûr, on a quand même des couleurs, on a du marron, mais en gros, on va mélanger sur le tas, donc ça va être très intuitif au fur et à mesure. En fait, on a une maquette, mais on ne sait pas vraiment le résultat final. C'est un peu la surprise même pour nous.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. À la genèse du projet, il y a une maquette d'abord, on essaye de le dessiner en miniature pour déjà voir comment on va occuper l'espace,
ouais,
par exemple, et se répartir les rôles.
Ouais.
Ouais.
On travaille en digital en premier, nous.
D'accord.
On va avoir un mélange de photos, de croquis. On va faire donc un montage digital comme ça. Et ensuite, on va faire une maquette, un croquis peinture, vraiment, là. Et ensuite, on va le reproduire en grand. Mais comme je vous disais, il y a toujours une petite part qu'on laisse au hasard, en fait. En anglais, on dit « happy mistakes ». Si on fait une erreur, des fois, c'est pas une erreur, en fait, c'est une erreur joyeuse et on est contente qu'elle soit là. Nous, on aime bien voir les traits, les coups de pinceau, c'est important, on voit la dimension et c'est dynamique, en fait.
C'est vivant. Un binôme qui s'est formé il y a une petite dizaine d'années maintenant, c'est ça? Vous avez deux parcours un peu différents. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que ça s'est fait, la création des Mojito Fraises?
Alors, on s'est rencontrés après nos études. On est originaire du Mans, donc on revenait de nos études respectives dans notre ville natale. Et on s'est rencontrés à une soirée avec des amis en commun. On avait toutes les deux l'envie de créer quelque chose autour de l'illustration, de la création. On a des études de graphisme et d'illustration, donc on était vraiment là-dedans. Au départ, c'était pas
street art. On connaissait pas le muralisme. En fait, ça s'est venu après, de façon très naturelle. En fait, on était intéressés par l'illustration. Intéressé d'ouvrir peut-être un e-shop, on faisait des marchés au début. Et de fil en aiguille, on a eu une commande pour une asso, des commandes par exemple bénévoles.
Et c'est voilà. Comme ça que vous avez découvert vraiment l'art urbain,
on
l'art
est tombé,
en plein
amoureuse
air,
du grand format en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment impactant dans le grand format. Au niveau du public, ça touche plus de monde et on a continué. On ne s'est plus jamais arrêté.
Vous avez investi pas mal de lieux différents, notamment un hôpital, si je ne me trompe pas, c'est ça?
L'hôpital du Mans, ouais, l'ancienne maternité, en fait, qui est un bâtiment désaffecté. Et ce sont des patients en dialyse qui ont vu sur ce mur-là. Et plutôt que de le détruire, parce que c'est un projet futur, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ils se sont dit, on va leur offrir une fenêtre un petit peu contemplative.
Parce que l'essence de votre projet, c'est d'apporter de la couleur, de l'art dans des lieux pas toujours réputés pour être peut-être très apaisants, pas toujours des lieux très colorés, etc. L'hôpital, bien qu'elle soit essentielle, ne rappelle pas toujours des mauvais souvenirs. Il y a cette envie aussi chez vous de s'orienter vers ces lieux en particulier?
Ouais, tout à fait. En fait, on fait aussi beaucoup de collaboratives. Donc ça a une dimension dans le même esprit où on va toucher des personnes... qui sont en difficulté dans différentes choses. Par exemple, des enfants en décrochage scolaire, réinsertion judiciaire, des choses comme ça. On va travailler dans un EHPAD, donc des milieux qui ne sont pas toujours faciles. Et en fin de compte, ça apporte quelque chose, surtout au niveau du collaboratif. Les personnes qui vont participer avec nous vont avoir un visuel de quoi être fiers, en fait, il va y avoir une fin bien marquée où ils vont pouvoir dire ça, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, c'est toujours des beaux projets.
Il y a quelque chose d'intéressant dans le street art, l'art mural, c'est qu'on tente de créer des créations, des œuvres qui sont dans des environnements où on ne prête pas forcément attention, contrairement à quand on va au musée, qu'on découvre certaines formes artistiques où notre concentration est figée. C'est que le public vient naturellement à cette œuvre d'art. Il faut essayer d'attirer son attention aussi quand on... de l'art mural?
Tout à fait, nous on cherche un petit peu à créer une sorte de lenteur, un arrêt sur image. Et c'est pour ça qu'on essaie de créer des œuvres qui sont contemplatives, donc vraiment qui arrêtent le temps un instant.
Alors vous avez aussi investi d'autres lieux ailleurs qu'en Sarthe, c'est ça? Vous êtes allé dans le sud de la France il y a quelque temps?
Oui, on est allé faire une fresque sur le port Santa Lucia à Saint-Raphaël. On est allé faire des collages dans le village historique de Grimaud, dans le Var, toujours pareil. On est allé faire une fresque de 230 mètres carrés sur un gymnase à Gaillac, à côté de Toulouse. On est allé aussi cette année à la Turballe faire un petit festival avec nos amis
de Nantes,
du collectif La Belle Rue. Et on est allé à Port-Jérôme-sur-Seine aussi faire une petite fresque.
C'était sur commande là aussi? Ce sont quoi, des acteurs locaux, des associations qui vous ont demandé? Comment ça s'est passé?
C'est plutôt des mairies en fait. Donc nous on a répondu à des appels à projets sur tous ces projets-là.
Et sur les deux fresques dans le sud, on peut les décrire? Qu'est-ce qu'il y avait qui était mis en avant? Sur quoi vous avez travaillé? Qu'est-ce qu'on peut découvrir?
Il y avait un thème commun sur la fresque à Saint-Raphaël. Et d'ailleurs, il y a Anaconda qui était là aussi sur ce festival-là. Donc, on était trois duos d'artistes. On avait un thème commun qui était Saint-Raphaël et la mer. Donc, voilà, des thèmes sous-marins. Nous, on a fait une dormeuse sous-marine avec un beau drapé et des animaux sous-marins, un monde un peu imaginaire.
Puisque vous êtes donc des artistes dans l'art urbain, mais pas seulement, comme vous l'avez dit, vous faites plein de choses. Est-ce que vous êtes amené aussi à faire, par exemple, de la médiation, de la transmission auprès du jeune public, pour favoriser un peu la pratique des ateliers, etc.?
Tout à fait. Comme disait Mathilda, pas mal d'ateliers participatifs. Par exemple, la semaine prochaine, on est à l'EHPAD de Coulaines, justement, avec Inalta, de Coulaines aussi. Et on fait une fresque avec trois jeunes et avec le dispositif argent de poche, ils sont rémunérés pour faire ce projet-là. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait du tout public, de la maternelle à du tout public, justement.
Dans 77 ans.
Voilà.
Justement, pour finir cet entretien, peut-être votre actualité. Donc vous avez présenté ça qui aura lieu dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été, dans les mois qui arrivent?
Donc cet été, on a aussi en juillet à Alonne une fresque participative sur inscription dans le quartier du Mail. Ensuite, on prend nos vacances en août.
Il en faut quand même.
Et oui, il en faut. Et en septembre, on réalise une grande fresque à la Flèche sur le thème des Jeux Olympiques.
Et voilà, pour l'instant.
Et des écoles aussi. Ouais.
Et vous avez déjà en tête comment est-ce que vous allez parler des Jeux Olympiques, peut-être paralympiques, j'imagine, forme d'art urbain. Ouais.
On a déjà un petit peu travaillé ce sujet-là, puisque c'était le thème un peu de l'année 2024, vous l'entendez. Et du coup, ouais, nous, on va travailler les Jeux Olympiques et Paralympiques en montrant un petit peu la force féminine et masculine et en représentant vraiment... Olympique, paralympique.
Et votre actualité, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook et Instagram pour suivre les Mojito Fraises.
Et oui, mojitofraises.fr sur les réseaux.
Eh bien, merci beaucoup, Mathilda et Laura, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, super.
À très bientôt sur notre antenne. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On parlera de la création immersive Seascape, présentée dans le cadre de Plein Champ, qu'on a déjà pu découvrir cette année pendant Le Mans Sonore. Avant ça, je vous propose Just Wanna de Yeba. À tout de suite. I'm not afraid to Nous sommes toujours en direct du parc du Guénemolny pour la 6e édition du festival Plein Champ, une émission en partenariat avec la ville du Mans. Dans cette dernière partie d'émission, nous allons parler d'une création que le public a pu découvrir au Mans dans le cadre de Le Mans Sonore cette année et qu'on retrouve donc à l'occasion de Plein Champ. Il s'agit de Seascape. Pour en parler, j'accueille Noémie Favennec, directrice artistique du collectif Oreilles Indiscrètes.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Simon Carbonel également, musicien pour ce projet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Seascape, c'est une création immersive qui plonge le public au cœur des fonds marins pour nous sensibiliser à l'eau pollution sonore dans les fonds marins notamment. On en avait parlé sur notre antenne pendant Le Mans Sonore, sur Radio Alpan, on en avait parlé avec vous. Vous revenez pour Plein Champ. Simon Carbonel, vous êtes à la composition, la partie électronique, on a pu vous découvrir ce samedi soir sur scène. On peut dire que c'est un concert immersif. Peut-être Noémie Favennec, présenter aux gens qui nous écoutent l'intention de cette création.
Alors, l'intention de Seascape, c'est de sensibiliser à la pollution sonore des océans. Donc, on connaît beaucoup la pollution plastique, mais la pollution sonore, c'est quelque chose qui est encore peu connu. Donc, voilà, notre idée, c'est de sensibiliser à cette question.
Oui, bien près du micro, on me fait signe. Donc, sensibiliser, donc, c'est un projet qui se développe en plusieurs parties, c'est ça? Il y a différentes parties, il y a de l'installation, de l'échange, de la pratique. Comment ça se présente?
Alors, tout à fait, en fait, il est prévu en quatre temps. Il y a d'abord un concert immersif, donc vous avez pu entendre hier soir. On a normalement aussi une médiation qui suit le concert avec Bill François, qui est un biophysicien spécialiste des fonds marins. Et puis, on a aussi des cabines immersives qui sont ici d'ailleurs sur le site, qui permettent de sensibiliser de manière interactive le public à la question de la pollution sonore. Et on a aussi des actions culturelles dans les classes où on fait des ateliers.
Simon Carbonel, c'est donc un spectacle, un concert immersif qu'on a pu découvrir ce samedi soir pendant Plein Champ. Comment est-ce qu'on pourrait présenter cette création d'un point de vue sonore et musical? Comment est-ce que vous l'avez travaillée? Comment est-ce que vous la présentez une fois qu'elle est au public, face au public?
J'ai déjà travaillé sur l'origine du projet avec, oui. avec Noémie, qui a défini une dramaturgie. Donc c'est une histoire qui commence sur la plage et qui finit après dans les grands fonds sous-marins. Avec des rencontres à la fois de bruits, de cris de cétacés. Et
sur
puis
un
aussi,
fond de musique électronique.
Oui, et puis sur un fond de musique électronique, mais aussi avec des samples, donc des échantillons sonores de scientifiques qui ont été récoltés par des scientifiques. Et puis avec moi sur scène, on est deux en fait, il y a aussi une flûtiste qui s'appelle Victoire Fellono et qui du coup fait de la flûte Petzold.
Alors, vous avez été présenté pendant Le Mans Sonore. Comment est-ce que vous avez retravaillé cette création pour aujourd'hui la présenter à Plein Champ, en plein air, dans un cadre très différent, finalement?
C'est ça. Alors, on avait une première version qui était plus expérimentale. Donc là, l'idée, c'était d'aller plus direction électro. Et on a aussi ajouté des visuels en travaillant avec une artiste multimédia qui a fait donc, des visuels qu'on projetait sur un tulle en avant-scène. Tania Cortés-Becerra.
Finalement, Simon, de quelle manière une création sonore immersive peut sensibiliser et toucher différemment le public sur ce sujet, ces sujets si sensibles, selon vous? Qu'est-ce que l'immersif apporte?
Alors, l'immersif, ça permet une autre écoute des sons. Ça permet de se sentir beaucoup plus englobé par la musique. Ça permet, pour moi, de partir un petit peu plus dans l'imaginaire. Et de mieux discerner tout ce qui peut se passer, les petits samples, les petits sons. Parce que là, il y a beaucoup de sons, justement, des scientifiques qui sont intéressants à écouter et dans une musique électronique qui peut tapée un peu. Et en tout cas, là, on peut discerner quand même ces petits sons-là. Donc là, pour moi, tout l'intérêt, il peut être là.
À l'origine du projet, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant et d'important à se tourner vers ce thème précis de la pollution sonore, selon vous, Noémie?
Alors, déjà, avant la pollution sonore, il y a tout simplement tout l'univers sonore marin. Une fois qu'on s'y intéresse, on découvre qu'en fait, il y a plein de sons sous la mer, contrairement à ce qu'on peut croire. Toutes sortes de sons différents, les coquillages, les crevettes, les crabes, les poissons. Et en fait, de découvrir toute cette palette de sons, c'est super intéressant du point de vue de la composition.
Que l'être humain n'entend pas d'ailleurs. Des sons
que
peut pas entendre.
L'être humain n'entend pas. Certains oui, d'autres oui. Non. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui sont effectivement dans les ultrasons, donc il faut transposer pour qu'on puisse les entendre. Et puis après, la question de la pollution sonore, il y a aussi en fait plein de sons qui sont super intéressants à retravailler aux machines électroniques.
Moi j'aime bien en tout cas ça, retravailler les, les sons de pollution sonore, enfin les pitchants, les dépitchants, rajouter des écus, les filtrer, les... Enfin, voilà, j'ai beaucoup travaillé comme ça.
Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la pollution sonore, si on peut expliquer ça? De quelle manière elle déstabilise notre écosystème, notre biodiversité, au même plan que la pollution industrielle, etc.
Alors, elle empêche la communication entre oui. les différents individus d'une espèce, notamment les baleines. Donc en fait, le son sous la mer, il se propage beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Les chants des baleines peuvent aller jusqu'à des milliers de kilomètres à travers l'océan. Et donc, les sons comme, par exemple, les sons faits par les explosions sismiques ou par les portes-conteneurs, etc., interfèrent en fait les chants ou les autres manières de communiquer entre les animaux et donc font que la communication n'est plus possible et ça entraîne plein de conséquences, plus de reproduction, plus de manières de s'orienter, etc.
Et de quelle manière, finalement, on peut lutter, à proprement parler, contre cette pollution sonore?
Alors, en fait, la pollution sonore, c'est une question qui est encore peu connue, qui commence de plus en plus à être étudiée. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont en train d'être mises en place, notamment des rideaux de bulles qu'on peut mettre, par exemple, autour des chantiers offshore pour limiter la propagation. Mais, en fait, aussi tout simplement... limiter la vitesse de déplacement des portes-conteneurs, essayer de limiter aussi la quantité de circulation sur la mer. Pareil, voilà.
Et l'autre volet intéressant de Seascape, c'est que vous avez travaillé avec des chercheurs de
Exactement.
Plusieurs universités. Il y a une chercheuse de l'université de Brest qui était venue parler de Seascape sur notre antenne il y a quelques mois.
Tout à fait. On a travaillé donc avec Irène Maupin, qui est chercheure en acoustique sous-marine. Elle était présente avec nous pour toute la première phase de la création à chaque résidence. Et donc l'idée, c'était vraiment de mêler écoute artistique et écoute scientifique et d'essayer de transmettre ensemble.
C'est intéressant ça. Simon, en tant qu'artiste, est-ce que vous avez été amené à travailler pour étudier, préparer ce projet, les sonorités, l'univers et l'aspect musical avec des chercheurs pour avoir aussi leur regard et que chacun s'apporte mutuellement?
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a... eux, ils ont établi un canevas, un filtre... des contraintes pour moi précises dans justement la dramaturgie qu'ils ont travaillé ensemble aussi particulièrement avec Noémie. Et pour moi, c'est toujours intéressant de se baser sur des contraintes comme ça pour créer quoi. Je pars pas de rien du tout. Là, je suis parti d'images très précises et de samples, de sons très précis.
Alors finalement, Seascape est présenté dans le cadre de Plein Champ. Est-ce que selon vous, cette création sonore que vous présentez résonne à sa manière avec l'art urbain, avec l'ambiance que met en avant Plein Champ, le street art, l'art urbain, etc.
Alors c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais on a travaillé en collaboration avec les artistes de street art, les Rescate Studios.
Il y avait une magnifique fresque qu'on peut toujours découvrir, mais qu'on pouvait découvrir pendant le concert hier soir derrière, qui restera un an.
Voilà, exactement. Et cette fresque, en fait, elle traite justement de la pollution sonore. Donc on a une fille qui tient un aquarium, une fille ou un garçon d'ailleurs, chacun... interprète comme il veut, avec un phoque à l'intérieur. Et cette personne, cet enfant, il est entouré de nuisances sonores. Donc, on a travaillé avec eux aussi pour le décor du spectacle. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de mélanger justement des univers qui ne sont pas forcément toujours en lien. Parce que, donc, il y a de la musique électronique, mais il y a aussi des influences de musique expérimentale et contemporaine.
Parce que vous avez un stand également, comme vous le disiez. On peut vous retrouver sur un stand avec une petite expérience, entre guillemets, pour...
Exactement.
Visualiser quelque peu la pollution sonore et ses conséquences assez dramatiques parfois.
C'est ça, on a un dessin qui retrace tout le parcours du concert et on peut écouter les différents samples qu'on a utilisés justement. Et puis on a aussi deux autres cabines, dont une qui a été peinte par les Rescate Studios avec de la peinture photoluminescente. Et du coup, on peut découvrir des animaux cachés dans la fresque.
Simon Carbonel, c'est une création qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres événements culturels, artistiques, sur d'autres ambiances. Il y a eu Le Mans Sonore, il y a eu Plein Champ. Est-ce qu'on pourra vous retrouver ailleurs l'année prochaine, dans les semaines qui arrivent?
Eh ben, c'est peut-être à Noémie qui est oui. sur la direction de la compagnie.
Absolument. Est-ce que vous allez l'adapter surtout à différentes atmosphères?
Alors non, je pense que maintenant on va garder la version qu'on a et tourner avec celle-là. La prochaine date, c'est la semaine prochaine, enfin le 16 juillet aux Fêtes Maritimes de Brest. Et là, on est en organisation.
Événement emblématique sur toutes ces questions-là, justement, à Brest, qui revient tous les deux ans, si je ne dis pas de bêtises.
Tous les quatre ans.
Tous les quatre ans, oui.
Et la dernière édition n'a pas eu lieu, puisqu'il y avait le Covid.
Et donc, est-ce qu'il y a d'autres projets de création sonore, immersive, peut-être sur d'autres thématiques liées à la biodiversité et à notre planète?
Oui, il y en a des nouveaux qui sont en train de germer.
Voilà. On ne peut pas en savoir plus pour le moment. Simon Carbonel, en tant qu'artiste, est-ce que vous aussi, vous avez des projets peut-être personnels qu'on pourra découvrir?
Oui, en ce moment, je tourne avec la chanteuse Mesparo, avec qui on a co-créé l'album. Là, on joue la semaine prochaine là, au Festival Terre du Son. Et puis, je tourne aussi avec la compagnie Alors pour le spectacle Au plus adulte que nous. C'est aussi, il y a des parallèles hein, avec Siskep, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille... un peu comme Greta Thunberg, voilà, qui a un parcours et qui est accompagné de son copain qui est musicien et que j'incarne.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation, Simon Carbonel et Nomi Favenek, pour nous parler du projet Seascape. Merci.
Merci à vous.
Et à bientôt sur notre antenne. On va écouter quelques secondes, une petite virgule musicale et il va être l'heure de conclure cette émission. Marion Salle qui est en direct. Bonjour Marion.
En direct. Salut Radio Alpha.
Voilà, on est en direct.
T'as entendu?
Les auditeurs la connaissent par cœur hein, désormais. Elle est tous les jours sur notre antenne. Elle fait des superbes chroniques. Vous venez cette semaine parler des cinéastes?
Si tu m'invites, ouais.
Voilà. Bon bah je ne vous inviterai pas.
Super.
Voilà, on est en direct du parc du Gué de Molny pour la 6e édition du Festival Plein Champ. Je remercie l'ensemble de nos invités d'avoir pris de leur temps pour répondre à notre invitation. Je remercie la Ville du Mans pour ce partenariat, particulièrement Étienne Kervella, directeur artistique de l'événement, pour sa confiance. Merci aussi à Candice pour son apport dans la préparation de cette émission. Je remercie aussi Romain Linan pour la réalisation technique. Et puis c'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.
La 6e édition du Festival Plein Champ, une émission en direct, présentée par Robin Hulin. Sur Radio Alpa.